Our dear brothers and sisters, we welcome you to
this. Mes chers frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la veillée de Noël. Nous sommes reconnaissants de cette occasion de nous assembler et de réfléchir à la naissance, à la vie et à la mission de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le président Monson, qui préside cette réunion, m'a demandé de la diriger. Nous saluons chaleureusement chacun d'entre vous. Nous saluons la présence ce soir de la première présidence, des membres du Collège des douze apôtres, d'autres autorités générales et des présidences générales d'auxiliaires. La musique de cette veillée de Noël sera interprétée par le chœur du tabernacle mormon et par l'orchestre de Temple Square, sous la direction de Mac Wilberg et Ryan Murphy, avec Andrew Unsworth à l'orgue. Le chœur va ouvrir la réunion en chantant « Ô quel bonheur Jésus viendra ». Ensuite, Sœur Neil F. Marriott, deuxième conseillère dans la présidence générale des jeunes filles, fera la prière d'ouverture.
Notre cher Père Céleste, nous inclinons la tête devant toi ce soir, au début de la veillée de Noël, et nous te remercions pour le don de ton Fils parfait. Nous ressentons vraiment une grande espérance en pensant à lui, sa vie, son expiation pour nous, et nous te remercions pour ce grand don. Nous sommes reconnaissants ce soir d'être réunis pour l'adorer, et nous prions pour les personnes qui vont nous parler ou qui vont chanter ou jouer d'un instrument, afin que leur témoignage puisse mettre en notre cœur ce message de foi et d'amour. Nous te remercions, Père Céleste, pour cette période de l'année. Puisses-tu nous bénir d'une plus grande foi en notre Sauveur, tandis que nous l'adorons ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous allons avoir maintenant le plaisir d'entendre le président Monson, notre prophète bien-aimé. Après le discours du président Monson, le chœur chantera « Christmas bells are ringing ». Rosemary M. Wixom, présidente générale de la primaire, nous adressera ensuite la parole. Elle sera suivie par le chœur qui chantera « Au loin dans l'étable ». Nous écouterons ensuite Ronald A. Rasband, de la présidence des 70, après quoi le chœur chantera « Dans la Judée, beau pays de Dieu ».
» Mes chers frères et sœurs, c'est pour moi une joie d'être avec vous ce soir, tandis que par la parole et le chant, nous célébrons la naissance de notre Sauveur Rédempteur, Jésus-Christ, le Seigneur. Noël est une période formidable de l'année. C'est aussi un moment où la plupart d'entre nous sont bien occupés. J'espère que nous ne serons pas pris par les contraintes de cette période au point que nous nous concentrerons sur les mauvaises choses et manquerons les joies simples de la commémoration de la naissance du Saint de Bethléem. Et je prie pour que cela n'arrive pas. La vraie joie de Noël ne se trouve pas dans la précipitation, la course et l'envie d'en faire plus. Nous trouvons la vraie joie de Noël quand nous mettons le Sauveur au centre de cette période de fête. Né dans une étable, couché dans une mangeoire, il est venu des cieux pour vivre sur la terre dans la condition mortelle et pour établir le royaume de Dieu. Son évangile glorieux a changé la façon de penser du monde. Il a vécu pour nous et est mort pour nous. Que pouvons-nous lui donner en retour? J'aime les mots de la poétesse anglaise Christina Rossetti. Que puis-je lui donner, moi qui suis si pauvre? Si j'étais un berger, je lui apporterais un agneau. Si j'étais un mage, je ferais ce que j'ai à faire. Mais moi, que puis-je lui donner? Je donnerai mon cœur. Notre façon de fêter Noël doit être le reflet de l'amour et de la générosité enseignée par le Sauveur. C'est donner, non pas recevoir, qui apporte toute la splendeur de l'esprit de Noël. Nous avons de meilleurs sentiments les uns pour les autres. Avec amour, nous nous tournons vers les personnes moins favorisées. Notre cœur s'adoucit. On pardonne à ses ennemis. On se souvient de ses amis. Et l'on obéit à Dieu. L'esprit de Noël illumine la fenêtre de notre âme. Nous y regardons la vie agitée du monde et nous nous intéressons plus aux gens qu'aux choses. Pour saisir la véritable signification de l'esprit de Noël, nous devons simplement penser à l'origine de cette fête. David O'Mackey a dit « Le vrai bonheur ne se trouve qu'en rendant les autres heureux ». C'est l'application pratique de la doctrine du Sauveur, selon laquelle il faut perdre sa vie pour la gagner. En résumé, l'esprit de Noël est l'esprit du Christ, qui fait luire notre cœur dans l'amour et l'amitié fraternelle, et nous incite à rendre service avec gentillesse. C'est l'esprit de l'Évangile de Jésus-Christ, qui, si nous lui obéissons, apporte la paix sur la terre, car il signifie la bienveillance envers tous les hommes. Puissions-nous donner comme le Sauveur l'a fait. Donner de soi-même est un don sacré. Nous donnons en souvenir de tout ce que le Sauveur a donné. Avec nos cadeaux qui finalement se cassent ou sont oubliés, puissions-nous faire des cadeaux d'une valeur éternelle. Comme le monde serait meilleur si nous faisions tous des cadeaux de compréhension et de compassion, de service et d'amitié, de douceur et de gentillesse. Tandis que nous sommes entourés de toute la splendeur de la période de Noël, puissions-nous, comme les mages, chercher une étoile brillante bien particulière pour nous guider dans notre célébration de la naissance du Sauveur. Puissions-nous tous faire en esprit le voyage jusqu'à Bethléem, apportant un cœur tendre et bienveillant, comme cadeau au Sauveur. Mes frères et sœurs, puissions-nous chacun avoir un Noël rempli de joie. C'est là mon espoir et ma prière. Au nom sacré de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Thank you.
Merry Christmas.
Joyeux Noël. C'est la période de Noël et les enfants invitent sa magie dans notre cœur. Nous manquons quelque chose si nous ne voyons pas Noël avec les yeux de l'enfance. Car quand les enfants voient les lumières, entendent la musique et sentent les parfums des arbres de Noël et des cannes de Noël, ils sont pleins d'impatience. Nous voyons leurs joues roses et leurs petits nez pressés contre la vitrine des magasins, tandis qu'ils rêvent au matin de Noël. Leurs petits doigts comptent les jours jusqu'au 25 décembre. Les parents aussi comptent les jours jusqu'au 25 décembre. Ils rêvent d'être prêts pour le matin de Noël, pendant qu'ils préparent et créent des surprises pour leurs enfants. Quand j'étais enfant, ma mère cousait souvent une surprise de Noël, pour moi et pour ma sœur jumelle. Elle installait la machine à coudre dans sa chambre et commençait le projet un mois à l'avance, en ayant soin de garder fermée la porte de la chambre pendant qu'elle travaillait. À l'approche du jour de Noël, elle cousait tard dans la nuit. Lorsque les objets étaient presque finis, sauf pour prendre nos mesures et marquer les ourlets, elle échafaudait un plan pour préserver sa surprise. C'est à ce moment-là que le bandeau apparaissait. Notre mère nous bandait les yeux, une à la fois, nous emmenait dans sa chambre et glissait l'objet sur notre tête, tout en gardant toujours le bandeau en place. Cela marchait bien, sauf quand le téléphone sonnait dans l'autre pièce. Ses mots en partant étaient « Je reviens tout de suite, ne t'avise pas de regarder ». Vous pouvez demander « Que se passait-il ensuite ?» Je vais vous le dire. C'était une veste de velours rouge. Permettez-moi de vous dire que cette question « Que s'est-il passé ensuite ?» est la véritable signification de Noël. Un jour de la mi-décembre, Amy Johnston, mère de 6 aînés de Lufto à Gilbert en Arizona, a décidé d'apprendre la naissance de Jésus à des enfants dynamiques de 8 ans. Elle s'est sentie inspirée de remplacer l'activité scout qu'elle avait prévue et de parler du premier Noël à ses Lufto. Elle a réuni les garçons autour d'elle sur le plancher de la salle de séjour familiale. Elle aura lu plusieurs passages des Écritures, tout en utilisant des illustrations pour raconter l'histoire sacrée de Marie et de Joseph, des bergers, de l'étoile et de la naissance de l'enfant Jésus dans les tables de Bethléem. Elle a lu. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Pendant qu'elle parlait de la naissance de Jésus, elle a remarqué que tous les garçons écoutaient une partie du temps, mais un garçon, John, buvait toutes ses paroles. John était un garçon turbulent, qui ne restait presque jamais assis tranquille, mais pendant qu'elle racontait l'histoire, il écoutait intensément et demandait « Et que s'est-il passé après ?» Alors elle a continué en leur racontant l'enfance de Jésus. Elle a dit « Jésus était un garçon qui vous ressemblait beaucoup. Il aimait courir et jouer, mais il grandissait aussi et se fortifiait en esprit. » Elle leur a dit que lorsque Jésus a eu 12 ans, il est allé à Jérusalem avec sa famille. Marie et Joseph étaient de retour chez eux lorsqu'ils se sont aperçus que leur fils n'était pas avec eux. Ils sont repartis rapidement à Jérusalem et ont trouvé Jésus dans le temple qui parlait avec des savants et des instructeurs qui lui posaient des questions. Les Écritures disent que tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés de son intelligence et de ses réponses. Que s'est-il passé après ? A demandé John. Et Mia a parlé aux enfants du ministère de Jésus-Christ et a dit qu'il était rempli de l'Esprit du Seigneur. Nous lisons dans la Bible qu'il a enseigné l'Évangile aux pauvres. Il a accompli des miracles. Il a guéri des aveugles et des malades. Et il a en fait ressuscité des morts. Il a enseigné, aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Visiblement, John était pris par ce qui se disait et voulait en savoir plus. De nouveau, il a demandé, que s'est-il passé après ? Elle leur a dit que des gens ont rejeté Jésus et ne l'aimaient pas. En fait, ils ont projeté de lui ôter la vie. Elle a raconté à ses petits louveteaux la dernière scène, le jardin de Gethsémané, et comment Jésus a été crucifié et est ensuite ressuscité. Elle voyait que toutes ces histoires étaient nouvelles pour John, qui était désireux d'en apprendre davantage. Puis elle a senti fortement qu'elle devait s'arrêter. Elle a appelé chacun des enfants par son nom et a dit « Jésus-Christ est mort pour toi ». John écoutait attentivement pendant qu'elle parlait à chaque enfant. Puis elle l'a regardé et a dit « John, Jésus-Christ est mort pour toi ». Il l'a regardé et puis a demandé étonné « Il a fait ça pour moi ?» Amy a dit « L'esprit était fort dans notre salle de séjour ce jour-là, quand ce jeune garçon a ressenti l'influence du Saint-Esprit pour peut-être la première fois. » Elle a dit « Je ne sais pas quel avenir attend John, dont la famille a déménagé depuis. Mais je prie pour que les semences qui ont été plantées lors d'une réunion de louveteaux 2 semaines avant Noël poussent et l'amènent un jour à la pleine mesure de la lumière de l'Évangile. » Après les fêtes, quand les lumières de Noël s'éteignent, que les odeurs de sapin se dissipent dans l'air et qu'on ne passe plus la musique de Noël à la radio, nous pouvons nous demander, comme John, que s'est-il passé après ? L'émerveillement de Noël n'est qu'un début. Noël nous rappelle que le bébé né à Bethléem nous a donné un but dans l'existence. Et ce qui se passe après, pour nous, dépend en grande partie de la façon dont nous comprenons notre Sauveur Jésus-Christ et nous le suivons. Tous les jours, nous invitons son Esprit dans notre vie. Nous voyons la lumière chez autrui. Nous entendons les voix d'enfants joyeux qui apportent de l'espoir et l'attente de l'avenir. Nous cherchons des raisons de rassembler, d'accueillir, de servir et d'inspirer pendant que nous apprenons ce que signifie véritablement connaître notre Sauveur Jésus-Christ. Nous nous trouvons à compter les jours jusqu'aux événements de notre vie où nous ressentons plus intensément son influence. Par exemple, lors de la naissance d'un bébé, du baptême d'un enfant, du départ d'un missionnaire, d'un mariage accompli au temple, et de la Sainte Cène toutes les semaines. Nous recherchons le Christ avec une foi chrétienne et enfantine, et nous ressentons son influence. Si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il est magnifique, le plan que notre Père a créé, plan selon lequel, grâce à son Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, nous pouvons retourner vivre avec lui, et avoir tout ce que le Père possède. Car c'est la dernière réponse à la question « Que se passe-t-il après ?» Le Sauveur a dit « Celui qui me reçoit, reçoit mon Père. Et celui qui reçoit mon Père, reçoit le royaume de mon Père. C'est pourquoi tout ce que mon Père a, lui sera donné. » Être prêt à le recevoir donne une toute nouvelle signification à être prêt pour le 25 décembre. John, où que tu sois, les apôtres vivants ont dit, nous témoignons solennellement que sa vie qui est l'élément essentiel de toute l'histoire humaine, n'a pas commencé à Bethléem et ne s'est pas achevé au calvaire. Il était le premier-né du Père, le Fils unique dans la chair, le Rédempteur du monde. John, son don pour nous est ce qui arrive après. C'est vrai, et il l'a fait pour toi. Je témoigne de cette vérité magnifique au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merry Christmas, my dear brothers and sisters.
Joyeux Noël, mes chers frères et sœurs. Je remercie la première présidence de me donner cette occasion spéciale d'exprimer mes sentiments à propos de la période sacrée de Noël et de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je ne me lasse jamais des messages de Noël qui ont commencé avec la naissance de l'enfant Jésus à Bethléem en Judée. Ésaïe parla de l'événement plus de 700 ans auparavant. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le roi Benjamin prophétisa, et il sera appelé Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Père du ciel et de la terre, le Créateur de tout depuis le commencement, et sa mère sera appelée Marie. Le prophète Néphi entendit une voix déclarer, « Demain, je viens au monde. » Le lendemain, au-delà des océans, naquit l'enfant Jésus. Il ne fait pas de doute que sa mère, Marie, contempla avec émerveillement son fils nouveau-né, le seul engendré du Père dans la chair. Luc nous dit que dans les collines de Judée entourant Bethléem, des bergers demeuraient dans les champs. Ce n'était pas n'importe quel berger, mais des hommes justes et saints qui témoigneraient de l'enfant Christ. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Imaginez cette scène en Judée, le ciel empli de l'éclat d'une étoile magnifique et des chœurs célestes célébrant cet événement unique. Ensuite, les bergers allèrent en hâte voir le bébé couché dans une crèche. Et plus tard, ils racontèrent ce qu'ils avaient vu. Chaque année, à Noël, nous ajoutons notre témoignage à celui des bergers, témoignage que Jésus-Christ, le Fils littéral du Dieu vivant, est venu dans un coin de la terre, dans ce que nous appelons la Terre Sainte. Les bergers se sont approchés avec référence de l'étable pour adorer le roi des rois. Comment allons-nous l'adorer cette année? En faisant des courses à n'en plus finir? En nous agitant et en décorant notre maison? Est-ce que ce sera là notre hommage à notre Sauveur? Ou bien apporterons-nous la paix à des cœurs troublés, la bonne volonté à des gens qui ont besoin d'un but plus élevé? Rendrons-nous gloire à Dieu en faisant ce qu'il demande? Jésus l'a dit simplement, « Viens et suis-moi ». L'évangile de Jésus-Christ, rétabli par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, trouve un écho parmi les croyants du monde entier. J'ai été personnellement témoin de la ferveur des gens qui ont embrassé sa parole sacrée des îles de la mer à l'immense Russie. Certains de nos ancêtres étaient parmi les premiers saints qui se rassemblèrent en Sion. Une femme, Anna Last Cornaby, s'installa à Spanish Fork, en Utah. En ces temps difficiles, Noël était parfois marqué par une orange précieuse, ou un jouet taillé dans du bois, ou encore seulement par une poupée de chiffon, mais pas toujours. Anna écrivit à propos du 25 décembre 1856. La veille de Noël arriva et mes chers petits, avec une foi enfantine, accrochèrent leurs bas, se demandant s'ils seraient remplis. Je leur cachai mon chagrin et leur assurai qu'ils ne seraient pas oubliés. Et ils s'endormirent, joyeux et pleins d'attente, en pensant au lendemain matin. N'ayant pas la moindre particule de sucre, je ne savais que faire. Il ne fallait pas qu'ils soient déçus. J'ai alors pensé à des courges que j'avais à la maison. Je les ai fait bouillir, en extrait le jus, qui, après avoir mijoté quelques heures, a donné un sirop sucré. J'en ai fait une pâte à pain d'épices, que j'ai découpé en toutes sortes de figures et j'ai fait cuire et que j'ai fait cuire dans une poêle, car je n'avais pas de four. J'en ai rempli leurs bas. Ils ont été aussi contents que s'ils avaient reçu les confiseries les plus sophistiquées. Entre les lignes, on lit l'histoire d'une mère qui travaille toute la nuit, sans même avoir de four, pour lui faciliter la tâche. Pourtant, elle est déterminée à porter de la joie à ses enfants, à renforcer leur foi, à affirmer dans leur foyer, « Heureux jour, tout est bien ». N'est-ce pas là le message de Noël? Le président Monson enseigne, « Les possibilités que nous avons de donner de nous-mêmes sont vraiment illimitées, mais elles sont également fugaces. Il y a des cœurs à réjouir, des paroles gentilles à prononcer, des cadeaux à offrir. » Chaque fois que nous agissons de concert avec le Seigneur, en faisant ce qu'il demande, en encourageant les gens qui nous entourent, nous rendons témoignage qu'il vit et qu'il nous aime, quelles que soient nos difficultés temporelles. Une autre grande âme de l'histoire de l'Église est John Menzies McFarlane, converti écossais. Il se joignit à l'Église avec sa mère veuve et son frère. Ils se rendirent tous les trois à Salt Lake City en 1852. Il avait 18 ans. Il devint géomètre, constructeur et même juge de district. Mais c'est sa musique qui le rendit célèbre. Il organisa son premier chœur à Cedar City et fit une tournée du sud de l'Utah avec son ensemble. Après une représentation à Saint-Georges, Erastus Snow, apôtre et dirigeant de la colonie, lui recommanda de s'installer dans cette ville et d'y amener sa famille et sa musique. L'année 1869 avait été très dure et frère Snow demanda à frère McFarlane de donner un spectacle de Noël qui redonnerait courage aux gens. Frère McFarlane voulait un nouveau morceau de musique attrayant pour l'occasion. Malgré tous ses efforts, il n'arrivait pas à le composer. Il pria à maintes reprises pour recevoir l'inspiration. Puis une nuit, il réveilla sa femme et s'exclama, « J'ai les paroles d'un chant, et je pense que j'ai aussi la musique. » Il se précipita sur le clavier du petit orgue de leur salon et joua l'air. L'écrivant à la lumière vacillante d'un bras de flanelle flottant dans un bol de graisse que tenait sa femme. Les paroles et la musique s'égrenèrent, fluides. Dans la Judée, beau pays de Dieu, bergers ouïrent ce chant des cieux. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur dans les hauts lieux. Douce paix vient nous des cieux. Douce paix vient nous des cieux. Frère McFarlane n'avait jamais été en Judée pour voir à quoi ressemblait la région, mais le message inspiré de sa musique s'épancha de son âme en témoignage de la naissance du Sauveur à Bethléem de Judée, un début qui allait changer le monde à jamais. Je témoigne que notre Père éternel vit. Son plan de bonheur bénit profondément chacun de ses enfants et toutes les générations. Je sais que son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, l'enfant né à Bethléem, est le Sauveur et le Rédempteur du monde, et que le président Monson est son prophète sur la terre aujourd'hui. Ces paroles de louange sont porteuses de vérité pour moi. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Shepherd.
Nous exprimons notre reconnaissance au cœur du tabernacle mormon et à l'orchestre de Temple Square pour la belle musique de Noël qui nous a profondément touchés. Nous remercions aussi les orateurs de ce soir et saluons les efforts de toutes les personnes qui ont apporté leur aide pour que cette veillée puisse avoir lieu. Au début de cette magnifique période de fête, nous prions que chacun d'entre vous ressente la paix et l'espérance qui se manifestent par l'amour rédempteur de notre Sauveur. Le dernier orateur de cette veillée sera Russell M. Nelson du Collège des Douze Apôtres. Après son message, le chœur clora la réunion en chantant « Douce nuit, sainte nuit ». Sous la direction de Frère Murphy, l'assemblée se joindra au chœur pour chanter le troisième couplet de ce célèbre chant de Noël. Puis Randall L. Reed, deuxième conseiller dans la présidence générale des jeunes gens, fera la prière de clôture.
Chers frères et sœurs, quelle merveilleuse expérience cela a été. La musique a été sublime et les messages nous ont réchauffé le cœur. L'esprit de Noël émeut notre âme. Les souvenirs de Noël ramènent à la famille, aux cadeaux et au service à autrui. Ils découlent de la véritable raison de Noël, ce don transcendant de notre Père Céleste. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous concentrer sur le Seigneur et la vie éternelle peut nous aider non seulement à Noël, mais dans toutes les épreuves de la condition mortelle. Des gens imparfaits se partagent la planète Terre avec d'autres gens imparfaits. Notre Terre est un monde déchu, entaché par les dettes excessives, les guerres, les catastrophes naturelles, la maladie et la mort. Les épreuves personnelles surgissent. Un père a pu perdre son emploi. Une jeune mère a pu apprendre une grave maladie. Un fils ou une fille a pu s'égarer. Quelle que soit la cause des soucis, chacun d'entre nous aspire à trouver la paix intérieure. Mon message de ce soir porte sur la seule source de véritable paix durable, Jésus-Christ, notre Prince de la paix. Il a porté ce titre parmi d'autres pour lesquels il a été préordonné. Il a été oint par son Père pour être le Sauveur du monde. Ces deux titres, le Messie et le Christ, indique sa responsabilité en tant que oin. Sous la direction de son Père, Jésus a été le créateur de ce monde-ci et d'autres mondes. Jésus est notre avocat auprès du Père. Il était l'Emmanuel promis, le grand Je suis et le Jéhovah de l'Ancien Testament. Il a été envoyé par son Père pour accomplir l'expiation, l'acte central de toute l'histoire de l'humanité. Du fait de son expiation, l'immortalité est devenue une réalité pour tous, et la vie éternelle est devenue une possibilité pour tous ceux qui choisissent de le suivre. Ses objectifs sont l'œuvre et la gloire du Dieu omnipotent. Jésus, notre grand exemple, nous a enseigné comment vivre, aimer et apprendre. Il nous a appris à prier, à pardonner et à persévérer jusqu'à la fin. Il nous a appris comment prendre plus soin des autres que de nous-mêmes. Il nous a enseigné la miséricorde et la gentillesse, ce qui, par son pouvoir, produit de vrais changements dans notre vie. Il nous a appris comment trouver la paix du cœur et de l'esprit. Un jour, nous nous tiendrons devant lui notre juste juge et notre maître miséricordieux. Ces responsabilités sacrées que sont celles du Seigneur nous font l'adorer comme notre prince de la paix personnelle et éternelle. Nous le louons pour les bénédictions que nous avons en tant que parents, grands-parents et instructeurs des enfants. Noël est un moment familial précieux. Le temps passé en famille est sacré. Nous pouvons aider nos enfants à se tourner vers le Sauveur. La musique peut nous y aider. Nos enfants aiment chanter « Jésus-Christ est mon modèle ». Jésus a dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il peut apporter la paix aux personnes dont la vie a été détruite par la guerre. Des familles brisées par le service militaire gardent des souvenirs de la guerre, souvenirs qui se sont inscrits dans ma mémoire pendant la guerre de Corée. Les guerres de notre époque sont plus sophistiquées, mais sont toujours aussi déchirantes pour les familles. Celles qui en souffrent peuvent se tourner vers le Seigneur. Son message est le message de consolation et de paix sur terre parmi les hommes qu'il agrée. La paix peut être donnée aux personnes qui ne se sentent pas bien. Certains corps sont mutilés. D'autres souffrent spirituellement du fait de l'absence d'êtres chers ou d'autres traumatismes émotionnels. Frères et sœurs, la paix peut venir en votre âme si vous édifiez votre foi dans le Prince de la paix. En avez-vous parmi vous qui sont malades? Amenez-les ici. En avez-vous qui sont estropiés ou aveugles, ou boiteux ou mutilés, ou qui sont affligés de toute autre manière? Amenez-les ici, et je les guérirai. Je vois que votre foi est suffisante pour que je vous guérisse. La paix peut être donnée à quelqu'un qui est dans le chagrin. Si le chagrin est la conséquence d'une faute ou d'un péché, tout ce que le Seigneur exige est un véritable repentir. Les Écritures nous exhortent à fuir les passions de la jeunesse et à être avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alors son baume en Galade, apaisant, peut guérir même l'âme souffrant du péché. Réfléchissez au changement qu'a connu John Newton, né à Londres en 1725. Il s'est repenti de sa vie pécheresse de marchand d'esclave pour devenir pasteur anglican. Suite à ce puissant changement de cœur, John a écrit les paroles du cantique « Amazing Grace ». Merveilleuse grâce, combien douce est cette mélodie qui sauva un malheureux comme moi. Autrefois, j'étais perdu, mais maintenant j'ai retrouvé le chemin. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. La paix peut être donnée aux personnes dont le fardeau est lourd. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. La paix peut venir sur ceux qui sont affligés. Le Seigneur a dit, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Quand nous pleurons la perte d'un être cher, nous pouvons être remplis de la paix du Seigneur par les murmures de l'Esprit. Et il arrivera que ceux qui meurent en moi ne goûteront pas la mort, car elle leur sera douce. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. La paix peut être donnée à tous ceux qui recherchent sincèrement le prince de la paix. C'est le message doux et salvateur que nos missionnaires apportent dans le monde entier. Ils prêchent l'évangile de Jésus-Christ qu'il a rétabli par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. Les missionnaires enseignent ces paroles du Seigneur qui transforment la vie. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. La paix peut être donnée à tous ceux qui choisissent de marcher dans les voies du Maître. Son invitation s'exprime en quatre mots aimants. Viens et suis-moi. Louons tous le prince de la paix, car il reviendra. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra. En tant que Messie, il règnera 1000 ans en roi des rois et seigneur des seigneurs. Si nous suivons Jésus-Christ, il nous guidera pour que nous vivions avec lui et notre Père céleste, avec notre famille. Si, à travers nos nombreuses difficultés de la condition mortelle, nous restons fidèles aux alliances que nous avons contractées, si nous persévérons jusqu'à la fin, nous nous qualifierons pour obtenir le plus grand de tous ces dons divins, la vie éternelle. Notre famille sera réunie pour toujours en sa sainte présence. Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs. Puisse chacun d'entre vous passer un joyeux Noël, et puissiez-vous jouir pour toujours de toutes les bénédictions du Seigneur, notre prince de la paix. C'est là ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you. Our Father in heaven,
notre Père céleste, nous sommes très reconnaissants du merveilleux esprit que nous avons ressenti ce soir, tandis que nous étions réunis pour célébrer la naissance de ton Fils. Par cette belle musique et ces messages de joie et d'amour de nos dirigeants inspirés, que nous aimons et pour lesquels nous te sommes reconnaissants. Nous te prions de les renforcer et les soutenir dans ton œuvre. Nous sommes très reconnaissants de la naissance de ton Fils, de son exemple, de sa vie, de son sacrifice expiatoire pour nous, qui donne autant d'espoir et de sens à notre vie. Bénis-nous pour que nous nous soucions des personnes dans le besoin. Puissions-nous être des instruments entre tes mains pour les réconforter et les relever. Nous te demandons une bénédiction particulière pour les nombreux missionnaires dans le monde. Bénis-les, protège-les, inspire-les, tandis qu'ils répandent la bonne nouvelle de ton évangile. Nous t'exprimons notre grand amour et notre gratitude pour ton Fils bien-aimé, notre Sauveur. Que l'Esprit de Noël soit toujours dans notre cœur. C'est là notre prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.